Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 83, DAF Pegimel.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Yebamot Pegimel. La Gemara nous ramène le monde de Rav, la Halakha est comme Rabbi aussi dans le Rosh et le Barakava, ce qu'on va expliquer tout de suite. Et je crois nous dit que la Halakha est comme Rabbi aussi au sujet de Koshi et de Kiddush. L'androgyne, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que l'androgyne est défini comme un Zahar, il peut faire consommer sa femme de la Touma, même de la Touma qui est Minatora. Au sujet de Rakava, il est marqué qu'on a le droit de planter ou de faire tout autre péoula de développement dans un arbre 30 jours avant Rosh Hashanah. Si jamais il l'a fait, il doit l'arracher. Rabbi Dan nous dit que il faut 3 jours pour que ça prenne. Rabbi aussi nous dit qu'il faut 15 jours. Rabbi Nachman nous précise que chaque avis qui a été cité, 30 jours, 15 jours ou 3 jours, c'est mis à part les 30 jours d'avant Rosh Hashanah. En tous les cas, la règle comme Rabbi aussi, c'est-à-dire qu'il faut 15 jours plus 30 jours. Shmuel nous dit que la l'alakha, comme Rabbi aussi, dans Koshi, dans Kiddush, de quoi on parle, Kishu, de Koshi, il est marqué qu'une femme qui saigne pendant son accouchement, ce sang n'est pas défini comme Dame Ziva. Rabbi Meir nous dit même 40 ou 50 jours avant, Rabbi Dan nous dit un mois avant, Rabbi aussi nous dit 15 jours avant. Donc la l'alakha, comme Rabbi aussi. Au sujet de Kilem, on parle de celui qui a planté une savigne au-dessus du blé de son ami. Il est responsable parce que c'est lui qui a causé la perte de ce blé-là. Ça, c'est pour le Rabbi Meir. Rabbi Sirabi Shimon pense que il ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas et donc ça n'est pas interdit. La Gemara se pose la question, comment est-ce que Shmuel aurait été possède dans Androgyne? La Gemara nous ramène que Shmuel nous a dit clairement que les paroles de Rabbi aussi dans la Braïta sont repoussées devant les paroles de la Mishnah. Ça veut dire que d'après Shmuel al-Khaq en Rabbi aussi, dans la Mishnah, comme Rav nous l'avait dit, au sujet de Rakava, qu'est-ce que Shmuel pense? Est-ce que la Rakava comme Rabbi aussi? La Gemara s'est marqué clairement. Il ne pense pas que la Rakava comme Rabbi aussi, puisqu'il pense que 33 jours se sont suffisants, alors que la Rakava aussi, c'est 45 jours. Au sujet de Koshi, d'une femme qui accouche, et quelle serait la Rakava d'après Rav? Taïko, on ne sait pas. Au sujet de Kiddush, quelle serait la Rakava d'après Rav? Nous dit la Gemara. Qu'il dit que la Rakava n'est pas comme Rabbi aussi. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il s'appuie sur cet avis. Aré, Ravada nous a dit, on doit que la Rakava était comme Rabbi aussi. La Gemara nous dit, celui qui nous avait dit que la Rakava était comme Rabbi aussi précédemment, au nom de Rav, c'était Ravuna. Et ici aussi, c'est Ravuna. C'est pour ça qu'on préfère l'avis de Ravuna qui nous dit que la Halakha n'est pas comme Rabbi aussi dans Kilaïm. Rabbi Dan nous dit qu'un tumtum à qui on a déchiré la peau et il se trouve qu'il est Zahar, il est défini comme Saris. On dit à Gemara, pourtant il y avait un tumtum qui était dans la ville de Biri à qui on a fait une opération, on a enlevé cette peau. Et puis en fin de compte, il s'est marié, il a eu 7 garçons. Rabbi Dan se dit, il vaut mieux vérifier d'où viennent ces garçons. Moi, je pense que c'est sûr que sa femme a eu des rapports en dehors du mariage. La Gemara nous ramène que Rabbi aussi, le fils de Rabbi Dan, nous dit qu'un tumtum ne peut pas faire Khalitza de peur qu'on lui fasse. On lui enlève cette peau et qu'il se trouve Saris. Quoi, ça veut dire que c'est sûr qu'il est un homme, demande la Gemara? On dit la Gemara, non, premièrement, peut-être que c'est une femme. Une femme ne peut pas faire Khalitza. Et mis à part le fait, et mis à part ça, même si c'est un homme, peut-être qu'il est homme, mais il sera peut-être Saris. Quelle différence entre le peut-être Saris et le Vadaï Saris, répond la Gemara. Si jamais il a fait la Khalitza alors qu'il y a d'autres frères, eh bien, si les Vadaï Saris, sa Khalitza ne vaut rien, si les Safek Saris, sa Khalitza empêchera les frères de faire Iboum, s'il n'y a pas d'autre frère, il est le seul, est-ce qu'il y a besoin de faire une Khalitza ou pas? Si les Vadaï Saris, il n'y a pas besoin de faire une Khalitza. Si les Safek Saris, il y a besoin de faire une Khalitza. Je dis à Gemara que Androgyne, on les Khayav, ce qu'il a, ça en a un rapport avec lui des deux côtés, du côté féminin, du côté masculin. Je dis à Gemara, pourtant, Rabbi Lézard nous dit que on les Khayav, ce qu'il a que du côté masculin, mais du côté féminin, non. Je dis à Gemara, oui, c'est une Arche Ketanaïm. Rabbi Sima, il lui pense qu'on les Khayav des deux côtés. Pourquoi est-ce que Rabbi Sima, il pense qu'on est des deux côtés? Avar amène le nom de Baram Duri qui dit, il est marqué Zahar, Lotishka, Mishke Veisha. Quel est un homme où on peut avoir des Mishkevim au pluriel? C'est forcément l'androgyne. Et à ce sujet, il est marqué qu'il est Khayav, ce qu'il a. Ah ben là, on te dit bien qu'il est marqué Mishke Veisha, mais il est quand même marqué Et Zahar, c'est-à-dire que c'est seulement du côté masculin. Ah ben là, comment est-ce qu'ils vont expliquer Et Zahar au sujet de l'androgyne? Comment est-ce qu'ils vont expliquer un Zahar normal? Et Manoji, puisqu'il est marqué Ve'et. Donc de là, on prend que un Zahar, un Ragil aussi, il est interdit de Mishkev Zahar. Jacques-Marc, parce qu'on sait qu'une femme, qui a un rapport inhabituel aussi, on aurait ces obligations-là. Parce qu'il est marqué Mishke Veisha, le terme de Isha, il est en plus. C'est pour ça qu'on apprend que même un rapport inhabituel chez une femme, il est Khayav dans le cas où elle est Ervam. Agmar nous dit que bien que Rabbi Eliezer a affirmé qu'Androgyne c'était un Zahar Malia, mais c'est un Zahar à 100%. C'est pas 100% dans tous les cas, c'est-à-dire qu'un animal Zahar, un animal Androgyne n'est pas défini comme Zahar. Quoi, d'où est-ce que je le sais? Parce qu'il est marqué que si jamais une volaille qui a eu un rapport avec un homme, ou qui a été destinée à Vodazar, ou une volaille qu'on a utilisée en tant que Vodazar, ou alors celle à qui on a donné une prostituée pour un rapport, ou alors qu'on a échangé contre un chien, ou Tumtu Androgynos, qui ont été acquis, on a fait Melika, puisqu'on les aurait définis par Melika, s'ils étaient Korban, ça aurait été simplement un Korban abîmé. Mais si ils sont pas Korban, on les définit comme Nevela, et Nevela, tout celui qui l'avale, est Tamé. Tanakama pense que Bemet, il est Tamé. Rabbi Eliezer lui pense que Tumtu Androgynos ne sont pas problématiques, ils ne sont pas névela, puisque Rabbi Eliezer disait que chaque fois où il a marqué Zahron et Kavan, dans n'importe quel korban, tu peux exclure ton tour androgynos, mais au sujet de la volaille, tu ne peux pas exclure androgyne, puisque ça n'a pas été exclu. En tous les cas, on voit que n'importe quel animal n'est pas défini comme n'importe quel animal, il est exclu, Tumtum et Androgynos ne peuvent pas être Korban. Donc on voit que Tumtum et Androgynos ne sont pas définis comme Zahar. Je dis à Gmara qu'on a en vérité les paroles de Rabbi Eliezer explicites à ce sujet, parce qu'il est marqué qu'un animal qui est Kilaïm, ou alors qui est Trefa, ou alors qui est né par Césarienne, ou alors Tumtum et Androgynos, ne peuvent ni Kadosh ni Mekadesh. Qu'est-ce que ça veut dire le Kadosh? Ils ne peuvent pas recevoir une Gdusha en tant que Tumura, ni peuvent faire une Gdusha par Tumura, c'est-à-dire eux-mêmes qui avaient de la Gdusha antérieurs ne peuvent pas la propager, en tous les cas. On voit que l'androgyne n'est pas défini comme un zahar, l'inan kochim, parce que s'il était défini comme un zahar, il aurait pu être kadosh et être mekadesh. Rabbi Eliezer nous dit que il est chayav ce qu'il a. Rabbi raconte que quand il est parti apprendre la halakha de Rabbi Eliezer ben Shamua, on l'a pas laissé étudier là-bas. Jusqu'à, la seule chose qu'il avait appris, c'était androgyne, il est chayav ce qu'il a, adran, alach et arel. On va résumer après ce qu'on a vu. Rav a été possèk comme Ravi aussi au sujet de l'androgyne qui est Zahar, Vada et Shmuel aussi a été possédé comme lui. Et au sujet de Arkava, qu'il faut attendre 45 jours, qu'il faut faire terminer tout travail de l'arbre 45 jours avant la Shmita, Shmuel a été possédé comme Zahar, comme Rabbi aussi, une femme qui a du sang 45 jours, pardon, 15 jours avant l'accouchement, on définit ça comme un Dame Zava, qui douche, c'était si jamais quelqu'un a planté de la vigne au-dessus du blé de son voisin. D'après Rabbi aussi, il n'est pas responsable parce qu'il n'a pas créé en vérité de dégâts. Marloquette entre Rabbi aussi et son père Rabbi Yehuda, et pardon, entre Rabbi aussi et son fils Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est défini comme un safek zahar ou comme un vadaï zahar? Malfremina pour Khalitza, s'il y a d'autres frères, est-ce que ça a été possel? Malfremina, s'il n'y a pas d'autres frères, est-ce qu'il doit faire une Khalitza? Marloquette, est-ce qu'un androgyne est chayav des deux côtés ou seulement d'un autre côté? Bien que Rabbi Eliezer pense qu'androgyne est chayav, il est défini comme un zahar, mais au sujet de Korban, le behemat Korban, il est d'accord que ce n'est pas défini comme un zahar. Le daf est clair, Baruch Hashem, il y a demain, Bezrat Hashem.